De Stendhal, Lucien Leven, deuxième volume. Chapitre 21. Son arrivée la combla de joie. Elle s'était dit, en sortant de chez madame de Commercy, « Il doit être si fort mécontent de lui et de moi qu'il prendra le parti de m'oublier. Ou, si je le revois encore, ce ne sera que dans quelques jours. » Dans l'obscurité profonde, madame de Chastelet distinguait quelquefois le feu du cigare de Leven. Elle l'aimait à la folie en ce moment. Si, dans ce silence profond et universel, Leven eût eu le génie de s'avancer sous sa fenêtre et de lui dire à voix basse quelque chose d'ingénieux et de frais, par exemple « Bonsoir, madame, daignerez-vous me montrer que je suis entendue ?» Très probablement, elle lui eût dit « Adieu, monsieur Leven !» Et l'intonation de ces trois mots n'eût rien laissé à désirer à l'amant le plus exigeant. Prononcer le nom de Leven en parlant à lui-même eût été la suprême volupté pour madame de Chastelet. Leven, après avoir assez fait le saut, comme il se le disait à soi-même, alla chercher un certain billard au fond d'une cour-salle où il était sûr de trouver quelques lieutenants du régiment. Il était si à plaindre que les rencontrer fut un bonheur pour lui. Ce bonheur parut et fit plaisir. Ces jeunes gens furent bons enfants ce soir-là, sauf à reprendre le lendemain la froideur du bon ton. Leven eut le bonheur de jouer et de perdre. Il fut décidé que l'on n'emporterait pas les quelques napoléons que l'on s'était gagnés. On fit venir du vin de champagne, et Leven eut le bon esprit de s'enivrer, au point que le garçon du billard et un voisin, qu'il appela, le reconduisirent chez lui. C'est ainsi qu'un amour véritable éloigne de la crapule. Le lendemain, Leven agit absolument comme un fou. Les lieutenants, ses camarades, redevenus méchants, se disaient « Ce beau dandy de Paris n'est pas accoutumé au champagne, il est encore détraqué d'hier. Il faudra l'engager à boire souvent. Nous nous moquerons de lui avant, pendant et après. C'est parfait. » Ce lendemain de sa première rencontre avec cette femme de laquelle Leven se croyait si sûr, il fut absolument hors de lui. Il ne comprenait rien à tout ce qui lui arrivait, pas plus aux sentiments qu'il voyait naître dans son cœur qu'aux actions des autres avec lui. Il lui semblait qu'on faisait allusion à ses sentiments pour madame de Chastelet, et il avait besoin de toute sa raison pour ne pas se fâcher. « J'agirai au jour le jour, » se dit-il enfin, « me jetant à chaque moment à l'action qui me fera le plus de plaisir. Pourvu que je ne fasse de confidence à qui que ce soit au monde et que je n'écrive à personne sur ma folie, personne ne pourra me dire un jour « Tu as été fou !» Si cette maladie ne m'emporte pas, du moins elle ne pourra me faire rougir. Une folie bien cachée perd la moitié de ses mauvais effets. L'essentiel est qu'on ne devine pas ce que je sens. » En peu de jours, il s'opéra chez Leven un changement complet. Dans le monde, on fut émerveillé de sa gaieté et de son esprit. « Il a de mauvais principes, il est immoral, mais il est vraiment éloquent, » disait-on chez madame depuis Laurence. « Mon ami, vous vous gâtez !» lui dit un jour cette femme d'esprit. Il parlait pour parler. Il soutenait le pour et le contre, il exagérait et chargeait les circonstances de tout ce qu'il racontait, et il racontait beaucoup et longuement. En un mot, il parlait comme un homme d'esprit de province. Aussi son succès fut-il immense. Les habitants de Nancy reconnaissaient ce qu'ils avaient l'habitude d'admirer. Auparavant, on le trouvait singulier, original, affecté, souvent obscur. Le fait est qu'il avait une frayeur mortelle de laisser deviner ce qui se passait dans son cœur. Il se voyait espionné et surveillé de près par le docteur Dupoirier, qu'il commençait de soupçonner d'avoir fait son marché avec M. Thiers, homme d'esprit, ministre de la police de Louis-Philippe. Mais Leven ne pouvait rompre avec Dupoirier. Il ne fut pas même parvenu à l'éloigner de lui en cessant de lui parler. Dupoirier était ancré dans cette société. Il y avait présenté Leven, et rompre avec lui eût été fort ridicule, et de plus, fort embarrassant. Ne rompant pas avec un homme aussi actif, aussi entrant, aussi facile à se piquer, il fallait le traiter en ami intime, en père. On ne peut trop charger un rôle avec ces gens-ci. Et il se mit à parler comme un véritable comédien. Toujours il récitait un rôle, et le plus bouffon qui lui venait à l'esprit. Il se servait exprès d'expressions ridicules. Il aimait à se trouver avec quelqu'un, la solitude lui était devenue insupportable. Plus la thèse qu'il soutenait était saugrenue, plus il était distrait de la partie sérieuse de sa vie, qui n'était pas satisfaisante, et son esprit était le bouffon de son âme. Ce n'était pas un Don Juan, bien loin de là. Nous ne savons pas ce qu'il sera un jour, mais pour le moment, il n'avait pas la moindre habitude d'agir avec une femme, en tête à tête, contrairement à ce qu'il sentait. Il avait honoré jusqu'ici du plus profond mépris ce genre de mérite dont il commençait à regretter l'absence. Du moins, il ne se faisait pas la moindre illusion à cet égard. Le mot terrible d'Ernest, son savant cousin, sur son peu d'esprit avec les femmes, retentissait toujours dans son âme, presque autant que le mot affreux de Bouchard, le maître de poste, sur le lieutenant-colonel et madame de Chastelet. 20 fois, sa raison lui avait dit qu'il fallait se rapprocher de ce Bouchard, qu'avec de l'argent ou des complaisances, on en pourrait tirer des détails. Cela lui était impossible. Rien que d'apercevoir cet homme de loin, dans la rue, lui donnait la chair de poule. Son esprit se croyait fondé à mépriser madame de Chastelet, et son âme avait de nouvelles raisons chaque jour de l'adorer comme l'être le plus pur, le plus céleste, le plus au-dessus des considérations de vanité et d'argent, qui sont comme la seconde religion de la province. Le combat de son âme et de son esprit le rendait presque fou à la lettre, et certainement un des hommes les plus malheureux. C'était justement à l'époque où ses chevaux, son tilbury, ses gens en livrée, faisaient de lui l'objet de l'envie des lieutenants du régiment et de tous les jeunes gens de Nancy et des environs, qui, le voyant riche, jeune, assez bien, brave, le regardaient sans aucun doute comme l'être le plus heureux qu'ils eussent jamais rencontré. Sa noire mélancolie lorsqu'il était seul dans la rue, ses distractions, ses mouvements d'impatience, avec apparence de méchanceté, passaient pour de la fatuité de l'ordre le plus relevé et le plus noble. Les plus éclairés y voyaient une imitation savante de Lord Byron, dont on parlait encore beaucoup à cette époque. Cette visite au billard ne fut pas la seule. La renommée s'en empara. Et comme tout Nancy avait porté à 12 ou 15 les 4 habits de livrée que madame Leven avait envoyés de Paris à son fils, tout le monde dit que chaque soir, depuis un mois, on rapportait Leven ivre-mort à son logis. Les indifférents en étaient étonnés, les officiers des missionnaires carlistes charmés. Un seul cœur en était percé jusqu'au vif. Me serais-je trompé sur son compte ? Cette ressource de perdre la raison pour oublier son chagrin n'était pas belle, mais elle était la seule dont Leven eût pu s'aviser, ou plutôt, il y avait été entraîné. La vie de garnison s'était offerte à lui, et il y avait cédé. Comment faire autrement, pour ne pas avoir une fin de soirée abominable? C'était son premier chagrin. La vie n'avait été jusque-là pour lui que travail ou plaisir. Depuis longtemps, il était reçu et avec distinction dans toutes les maisons de Nancy. Mais la même raison qui lui assurait des succès lui ôtait tout plaisir. Leven était comme une vieille coquette. Comme il jouait toujours la comédie, rien ne lui faisait plaisir. « Si j'étais en Allemagne, s'était-il dit, je parlerais allemand. À Nancy, je parle provincial. » Il lui eût semblé s'entendre jurer s'il leur eût dit d'une belle matinée. « C'est une belle matinée !» Il s'écriait en fronçant le sourcil et épanouissant le front de l'air important d'un gros propriétaire. « Quel beau temps pour les foins !» Ces excès du soir au billard charpentier vinrent ébranler un peu sa considération. Mais peu de jours avant que sa mauvaise conduite éclatât, il avait acheté une calèche, immense, très propre à recevoir les familles nombreuses, dont Nancy abondait, et c'était en effet à cet usage qu'il la destinait. Les six demoiselles de Serpierre et leur mère étrennèrent cette voiture, comme on dit dans le pays. Plusieurs autres familles, aussi nombreuses, osèrent la demander et l'obtinrent à l'instant. « Ce monsieur Leven est bien bon enfant, » disait-on de toutes parts. « Il est vrai que cela lui coûte peu. Son père joue à la rente avec le ministre de l'Intérieur. C'est la pauvre rente qui paie tout cela. » C'était de la même façon obligeante que M. Dupoirier expliquait le joli cadeau que Leven lui avait fait à la suite de sa goutte volante. Le docteur Dupoirier passait pour avide et était le meneur de Lancy. Leven le regardait comme le coquin le plus dangereux du pays. Il croyait même avoir lieu de supposer que depuis que les chances d'Henri V semblaient avoir diminué, Dupoirier avait traité avec le ministre de l'Intérieur et lui adressait des rapports tous les 15 jours. Mais enfin, ce coquin, pour le moment, lui était favorable. Tout allait au gré des désirs de Leven, même son père, qui ne se plaignait point de sa dépense. Leven était sûr que tout le monde disait du bien de lui à Madame de Chastelet. Mais la maison du marquis de Pontlevé n'en était pas moins la seule de Nancy où Lucien sembla faire des pas rétrogrades. En vain, Leven avait essayé d'y faire des visites. Madame de Chastelet, plutôt que de le recevoir, avait fermé sa porte sous prétexte de maladie. Elle avait trompé le docteur Dupoirier lui-même, qui disait à Leven que Madame de Chastelet ferait mieux de ne pas sortir de longtemps. Aidée par ce prétexte que lui fournissait le docteur Dupoirier, Madame de Chastelet faisait un petit nombre de visites, sans s'exposer à être accusée de fierté ou de sauvagerie par les dames de Nancy. La seconde fois que Leven la vit après le bal, il en fut traité à peine comme une simple connaissance. Même il lui sembla qu'elle ne répondait pas aux peu de mots qu'il lui adressait, autant que la politesse la plus simple aurait semblé l'exiger. Pour cette seconde entrevue, Leven avait formé les résolutions les plus héroïques. Son mépris pour soi-même fut augmenté par le complet manque de courage qu'il reconnut en lui au moment d'agir. « Grand Dieu, un tel accident m'arrivera-t-il au moment où mon régiment chargera l'ennemi ?» Leven se fit les reproches les plus amers. Le lendemain, il était à peine arrivé chez Madame de Marcilly que Madame de Chastelet fut annoncée. L'indifférence qu'on lui marqua fut si excessive que vers la fin de la visite, il se révolta. Pour la première fois, il profita de la position qu'il avait prise dans le monde. Il donna la main à Madame de Chastelet pour la conduire à sa voiture, quoiqu'il fût évident que cette prétendue politesse la contrariait beaucoup. « Pardonnez-moi, madame, si je suis peu discret. Je suis bien malheureux. »«
Ce n'est pas ce qu'on dit, monsieur, » répondit Madame de Chastelet avec une aisance qui n'était rien moins que naturelle, et empressant le pas pour gagner sa voiture.
« Je me fais le flatteur de tous les habitants de Nancy dans l'espoir que peut-être ils vous diront du bien de moi, et le soir, pour vous oublier, je cherche à perdre la raison. »
Je ne crois pas, monsieur, vous avoir donné lieu. »
À ce moment, le laquais de madame de Chastelet s'avança pour fermer la portière, et ses chevaux l'emportèrent, plus morte que vive. Chapitre 22.
Peut-il y avoir rien de plus déshonorant au monde, s'écria Leven, immobile à sa place, que de s'obstiner à lutter ainsi contre l'absence de rang? Ce démon ne me pardonnera jamais l'absence des épaulettes à graines d'épinards. »
Rien n'était plus décourageant que cette réflexion. Mais justement, durant la visite qui avait fini par le petit dialogue que nous venons de rapporter, Leven avait été comme enivré par la divine pâleur et l'étonnante beauté des yeux de Bathilde. C'était un des noms de madame de Chastelet.
On ne peut pas reprocher à sa froideur glaciale d'avoir eu un regard animé pour quoi que ce soit, pendant une grande demi-heure qu'on a parlé de tant de choses. Mais je vois briller au fond de ses yeux, malgré toute la prudence qu'elle se commande, quelque chose de mystérieux, de sombre, d'animé, comme s'il suivait une conversation bien autrement intime et relevée que celle qu'écoutent nos oreilles. Pour qu'aucun ridicule ne lui manquât, même à ses propres yeux, le pauvre Leven, encouragé comme on vient de le voir, eut l'idée d'écrire. Il fit une fort belle lettre, qu'il alla jeter à la poste lui-même, à Darnay, bourg à 6 lieues de Nancy, sur la route de Paris. Une seconde lettre n'obtint pas plus de réponse que la première. Heureusement, dans la troisième, il glissa par hasard, et non par une adresse dont nous ne pouvons le soupçonner en conscience, le mot « soupçon ». Ce mot fut précieux pour le parti de l'amour, qui soutenait des combats continus dans le cœur de madame de Chastelet. Le fait est qu'au milieu des reproches cruels qu'elle s'adressait sans cesse, elle aimait Leven de toutes les forces de son âme. Les journées ne marquaient pour elle n'avaient de prix à ses yeux que par les heures qu'elle passait le soir près de la persienne de son salon à épier les pas de Leven, qui, bien loin de se douter de tout le succès de sa démarche, venait de passer des heures entières dans la rue de la Pompe. Bathilde, car le nom de madame est trop grave pour un tel enfantillage, Bathilde passait les soirées derrière sa persienne à respirer à travers un petit tuyau de papier de réglisse qu'elle passait entre ses lèvres comme Leven faisait pour ses cigares. Au milieu du profond silence de la rue de la Pompe, déserte toute la journée et encore plus à 11 heures du soir, elle avait le plaisir, peu criminel sans doute, d'entendre dans les mains de Leven le bruit du papier de réglisse que l'on déchire en l'ôtant du petit cahier et que l'on plie quand Leven faisait son cigarito artificiel. Monsieur le vicomte de Blancet avait eu l'honneur et le bonheur de procurer à madame de Chastelet ses petits cahiers de papier que, comme vous savez, l'on fait venir de Barcelone. Dans les premiers jours qui suivirent le bal, se reprochant avec amertume d'avoir manqué à ce qu'une femme se doit à soi-même, et bien plus par respect pour Leven, dont elle voulait l'estime avant tout, que pour sa propre réputation, elle s'était imposé l'ennui de se dire malade et de sortir fort rarement. Il est vrai qu'au moyen de cette sage conduite, elle était parvenue à faire oublier entièrement l'aventure du bal. On l'avait bien vu rougir en parlant à Leven, mais comme en 2 mois elle ne l'avait pas reçue une seule fois chez elle, quand rien au monde n'eût été plus simple, on avait fini par supposer qu'en parlant à Leven au bal, elle commençait à éprouver les effets de l'indisposition qui, peu après, l'avait forcée à rentrer chez elle. Depuis son évanouissement du bal, elle avait dit en confidence à 2 ou 3 dames de sa connaissance « Je n'ai plus retrouvé ma santé ordinaire. Elle a péri dans un verre de vin de champagne. » Effarouchée par la vue de Leven et par ce qu'il avait osé lui dire à leur dernière rencontre, elle fut de plus en plus fidèle à son vœu de solitude parfaite. Madame de Chastelet avait donc satisfait à la prudence. Personne ne soupçonnait une cause morale à son indisposition du bal, mais son cœur souffrait cruellement. Elle manquait de l'estime pour soi-même, et la paix intérieure, qui était le seul bien dont elle eût joui depuis la Révolution de 1830, lui était devenue tout à fait étrangère. Cet état moral et la retraite forcée dans laquelle elle vivait commençaient à altérer sa santé. Toutes ces circonstances, et sans doute aussi l'ennui qui en résultait, donnèrent de la valeur aux lettres de Leuven. Depuis un mois, Madame de Chastelet avait fait beaucoup pour la vertu, ou du moins ce qui en est le signe le plus direct. Elle s'était infiniment contrariée. Que pouvait demander de plus la voix sévère du devoir? Ou, pour arriver sur le champ au mot décisif, Leuven pouvait-il encore penser qu'elle avait manqué à la retenue féminine? Quoi que pût vouloir dire ce mot affreux « soupçon » prononcé par lui, Leuven pouvait-il trouver dans sa conduite quelque chose qui pût le fortifier? Depuis quelques jours, elle avait le plaisir de répondre franchement « non » à cette question qu'elle se faisait sans cesse. Mais quel est donc ce soupçon qu'il avait sur moi? Il fallait qu'il fût d'une nature bien grave. Comme il changea en un clin d'œil toute l'apparence de sa figure. « Et, ajouta-t-elle en rougissant, quelle question ce changement me porta-t-il à faire ?» Alors le vif remords, inspiré par le souvenir de la question qu'elle avait osé faire, venait rompre pour longtemps toute la chaîne de ses idées. Combien j'eus peu d'empire sur moi-même! Combien il fallait que ce changement de physionomie fût marqué! Le soupçon qui l'arrêtait ainsi au milieu des transports de la sympathie la plus vive était donc quelque chose de bien grave? En ce moment fortuné arriva la troisième lettre de Leuven. Les premières avaient fait un vif plaisir, mais on n'avait pas eu la moindre tentation d'y répondre. Après avoir lu cette dernière, Bathilde courut chercher son écritoire, la plaça sur une table, l'ouvrit et commença à écrire, sans se permettre de raisonner avec soi-même. C'est envoyer une lettre et non l'écrire qui fait la démarche condamnable, se disait-elle vaguement à elle-même. À quoi bon noter que la réponse fut écrite avec la recherche des tournures les plus altières? On recommandait 3 ou 4 fois à Leuven de perdre tout espoir. Le mot même d'espoir était évité avec une adresse infinie dont Madame de Chastelet se sut bon gré. Hélas, elle était sans le savoir la victime de son éducation jésuitique. Elle se trompait elle-même, s'appliquant mal à propos et à son insu l'art de tromper les autres qu'on lui avait enseigné au Sacré-Cœur. Elle répondait. Tout était dans ce mot-là qu'elle ne voulait pas regarder. La lettre d'une page et demie terminée, Madame de Chastelet se promenait dans sa chambre, presque en sautant de joie. Après 1 heure de réflexion, elle demanda sa voiture, et en passant devant le bureau de poste de Nancy, elle tira le cordon. « À propos, » dit-elle au domestique, « jetez cette lettre à la poste, vite !» Le bureau était à 3 pas. Elle suivit cet homme de l'œil. Il ne lut pas l'adresse, où une écriture un peu différente de celle qu'elle avait d'ordinaire avait écrit « À Monsieur Pierre Lafond, poste restante, à Darnay. » C'était le nom d'un domestique de Leuven, et l'adresse indiquée par lui avec toute la modestie et le manque d'espoir convenable. Rien ne saurait exprimer la surprise de Leuven, et presque sa terreur, quand le lendemain, étant allé comme par manière d'acquis jusqu'à 1/4 de lieue de Darnay avec le domestique Lafond, il vit celui-ci, à son retour, tirer une lettre de sa poche. Il tomba à bas de son cheval plutôt qu'il n'en descendit, et s'enfonça, sans ouvrir la lettre et sans savoir presque ce qu'il faisait, dans un bois voisin. Quand il se fut assuré qu'un taillis de châtaigne, au centre duquel il se trouvait, le cachait bien de tous les côtés, il s'assit et se plaça bien à son aise, comme un homme qui s'apprête à recevoir le coup de hache qui doit le dépêcher dans l'autre monde, et qui veut le savourer. Quelle différence avec la sensation d'un homme du monde ou d'un homme qui n'a pas reçu du hasard ce don incommode, père de tant de ridicules, que l'on appelle une âme. Pour ces gens raisonnables, faire la cour à une femme, c'est un duel agréable. Le grand philosophe Kant ajoute « Le sentiment de la dualité est puissamment réveillé quand le bonheur parfait que l'amour peut donner ne peut se trouver que dans la sympathie complète ou l'absence totale du sentiment d'être deux. » Ah, Madame de Chastelet répond, aurait dit le jeune homme de Paris un peu plus vulgairement élevé que Leven. Sa grandeur d'âme s'y est enfin décidée. Voilà le premier pas. Le reste est une affaire de forme. Ce sera un mois ou deux, suivant que j'aurai plus ou moins de savoir-faire, et elle, des idées plus ou moins exagérées sur ce que doit être la défense d'une femme de la première vertu. Leven, abandonné sur la terre en lisant ces lignes terribles, ne distinguait point encore l'idée principale, qui eût dû être « Madame de Chastelet répond ». Il était effrayé de la sévérité du langage et du ton de persuasion profonde avec lequel elle l'exhortait à ne plus parler de sentiments de cette nature, tout en lui intimant l'ordre, au nom de l'honneur, au nom de ce que les honnêtes gens réputent le plus sacré dans leurs relations réciproques, d'abandonner les idées singulières avec lesquelles il avait sans doute voulu sonder son cœur. D'elle, Madame de Chastelet. Avant de s'abandonner à une folie qui, dans leur position réciproque, et surtout avec sa façon de penser à elle, était une aberration. Elle osait le dire. On ne peut plus difficile à comprendre. « C'est un congé bien en forme, » se dit Leven après avoir relu cette lettre terrible au moins 5 ou 6 fois. « Je ne suis guère en état de faire une réponse quelconque, » pensa-t-il. Cependant, le courrier de Paris passe demain matin à Darnay, et si ma lettre n'est pas ce soir à la poste, Madame de Chastelet ne la lira que dans 4 jours. Cette raison le décida. Là, au milieu du bois, avec un crayon qu'il se trouva par bonheur, et en appuyant sur le haut de son shako la 3e page de la lettre de Madame de Chastelet qui était restée en blanc, il fabriqua une réponse. Qu'avec la même sagacité qui dirigeait toutes ses pensées depuis 1 heure, il jugea fort mauvaise. Elle lui déplaisait surtout parce qu'elle n'indiquait aucune espérance, aucun moyen de retour à l'attaque. Tant il y a toujours du fa dans le cœur d'un enfant de Paris. Cependant, malgré lui et les corrections qu'il y fit en la relisant, elle montrait un cœur navré de l'insensibilité et de la hauteur de Madame de Chastelet. Il revint sur la route pour envoyer son domestique chercher un cahier de papier à Darnay et ce qu'il fallait pour écrire. Il écrivit sa réponse, et après qu'il eut envoyé le domestique la porter au bureau de la poste, il fut 2 ou 3 fois sur le point de galoper après lui pour la reprendre, tant cette lettre lui semblait maladroite et peu propre à amener le succès. Il ne fut arrêté que par l'impossibilité absolue où il se trouvait d'en composer une autre plus passable. « Ah, combien Ernest a raison » pensait-il. « Le ciel n'a pas fait de moi un être destiné à avoir des femmes. Je ne m'élèverai jamais au-dessus des demoiselles de l'opéra qui estimeront en moi mon cheval et la fortune de mon père. J'y pourrais peut-être ajouter des marquises de province, si l'amitié intime des marquis n'était pas trop fastidieuse. » Tout en faisant ses réflexions sur son peu de talent, et en attendant son domestique, Leven avait profité de son cahier de papier blanc pour composer une 2e lettre, qu'il trouva plus céladon encore et plus plate que celle qui était à la poste. Ce soir-là, il n'alla point au billard charpentier. Son amour-propre d'auteur était trop humilié du ton dont il s'était trouvé incapable de sortir dans ses deux lettres. Il passa la nuit à en composer une troisième, qui, mise au net convenablement et écrite en caractères lisibles, se trouva avoir atteint la formidable longueur de 7 pages. Il y travailla jusqu'à 3 heures. À 5, en allant à la manœuvre, il eut le courage de l'envoyer à la poste à Darnay. Si le courrier de Paris retarde un peu, Madame de Chastelet recevra celle-ci en même temps que mon petit bafouillage écrit sur la route, et peut-être me trouvera-t-elle un peu moins imbécile. Par bonheur pour lui, le courrier de Paris avait passé quand cette seconde lettre arriva à Darnay, et Madame de Chastelet ne reçut que la première. Le trouble, la simplicité presque enfantine de cette lettre, le dévouement parfait, simple, sans effort, sans espérance, qu'elle respirait, firent un contraste charmant aux yeux de Madame de Chastelet avec la prétendue fatuité de l'élégance au lieutenant. Était-ce bien là l'écriture et les sentiments de ce jeune homme brillant qui ébranlait les rues de Nancy par la rapidité de sa calèche? Madame de Chastelet n'en fut point effrayée. Les gens d'esprit de Nancy appelaient Leven un fat, et qui plus est, ne doutaient pas qu'il ne le fût, parce que, avec les avantages d'argent dont ils le voyaient jouir, ils eussent été des fats. Leven était bien plutôt modeste que fat. Il avait le bon esprit de ne savoir ce qu'il était en rien, excepté en mathématiques, chimie et équitation. Avec quelle joie il eût donné le talent qu'on lui accordait en ces 3 choses pour l'art de se faire aimer des dames qu'il trouvait chez plusieurs autres de ses connaissances de Paris. Ah, si je pouvais être délivré de ma folie pour cette femme, comme je me garderais à l'avenir. S'il pouvait arriver un jeune lieutenant-colonel à notre régiment, que ferais-je? Me battrais-je? Non, parbleu, je déserterais. Madame de Chastelet s'était repentie bien souvent d'avoir écrit. La réponse qu'elle pouvait recevoir de Leven lui inspirait une sorte de terreur. Toutes ses craintes se trouvaient démenties de la manière la plus aimable. Madame de Chastelet eut bien des affaires ce jour-là. Il lui fallut lire 5 ou 6 fois cette lettre, après avoir fermé à clé 3 ou 4 portes de son appartement, avant de pouvoir se former une esquisse juste de l'idée qu'elle devait avoir du caractère de Leven. Elle croyait y voir des contradictions. Sa conduite à Nancy était d'un fat, sa lettre était d'un enfant. Mais non, cette lettre n'était pas d'un homme à prétention, encore moins d'un homme vain. Madame de Chastelet avait assez d'usage et d'esprit pour être sûre qu'il y avait dans cette lettre une simplicité charmante, au lieu de l'affectation et de la fatuité plus ou moins déguisées d'un homme à la mode. Car tel eût été le rôle de Leven à Nancy, s'il eût eu l'esprit de connaître et de saisir sa fortune. Chapitre 23. La seule chose adroite que Leven eût mise dans sa lettre était de supplier pour une réponse. « Accordez-moi mon pardon, et je vous jure, madame, un silence éternel. » « Dois-je faire cette réponse ?» se disait madame de Chastelet. « Ne serait-ce pas commencer une correspondance ?» Un quart d'heure après, elle se disait « Résister toujours au bonheur qui se présente, même le plus innocent, quelle vie triste ! À quoi bon être toujours sur des échasses ? Ne suis-je pas déjà assez ennuyée par 2 années de bouderie contre Paris? Quel mal de faire cette dernière lettre qu'il recevra de moi, si elle est écrite de façon à pouvoir être examinée et commentée sans danger, même par les femmes qui se réunissent chez Madame de Commercy. » Cette réponse, si méditée, si occupante à faire, partit enfin. C'était des conseils sages donnés sur le ton de l'amitié. On exhortait à se garantir ou à se guérir d'une velléité que l'on ne croyait tout au plus qu'une fantaisie sans conséquence,
si ce n'était même une petite fiction que l'on avait eu le petit tort de se permettre pour amuser l'ennui du désœuvrement d'une garnison. Le ton de la lettre n'était pas tragique. Madame de Chastelet avait même voulu prendre celui d'une correspondance ordinaire et éviter les grandes phrases de la vertu outragée. Mais à son insu, des phrases d'un sérieux profond s'étaient glissées dans cette lettre, écho des sentiments, des chagrins et des pressentiments de cette âme agitée. Leven sentit cette nuance plutôt qu'il ne l'aperçut. Une lettre écrite par une âme complètement sèche l'eût tout à fait découragée. Cette lettre était à peine à la poste que Madame de Chastelet reçut la grande lettre de 7 pages écrite avec tant de soin par Leven. Elle fut outrée de colère et se repentit amèrement du ton de bonté qu'elle avait pris dans la sienne. Croyant bien faire, Leven avait suivi, sans trop s'en douter, les leçons vagues de fatuité et de politique grossière envers les femmes qui forment la partie sublime de la conversation des jeunes gens de 20 ans quand ils ne parlent pas politique. Madame de Chastelet écrivit aussitôt 4 lignes pour prier Monsieur Leven de ne pas continuer une correspondance sans objet. Dans le cas contraire, Madame de Chastelet serait forcée au procédé désagréable de renvoyer ses lettres sans les ouvrir. Elle se hâta d'envoyer ce mot à la poste. Rien n'était plus sec. Forte de cette belle résolution invariablement arrêtée, puisqu'elle l'avait écrite, de renvoyer sans les ouvrir les lettres que Leven pourrait lui adresser désormais, et croyant avoir entièrement rompu avec lui, Madame de Chastelet se trouva de mauvaise compagnie pour elle-même. Elle demanda ses chevaux et voulut se débarrasser de quelques visites d'obligation. Elle débuta par les Serpillères. Il lui sembla recevoir comme un coup dans la poitrine, près du cœur, en trouvant Leven comme établi dans le salon de ces dames, et jouant avec les demoiselles, en présence du père et de la mère, comme s'il eût été un véritable enfant. « Eh bien, la présence de Madame de Chastelet vous déconcerte ?» lui dit après un moment Mademoiselle Théo de l'Inde. Ce qu'elle dit, parce qu'elle le voyait, et sans y attacher aucune idée d'épigramme. Vous n'êtes plus bon enfant. Est-ce que Madame de Chastelet vous intimide?
Eh bien, oui, puisqu'il faut que je l'avoue, répondit Leven.
Madame de Chastelet ne put se défendre de prendre la parole, et le ton général de cette famille l'entraînant à son insu, elle parla sans sévérité. Leven put répondre, et pour la seconde fois de sa vie, les idées lui vinrent en foule en s'adressant à Madame de Chastelet, et il sut les exprimer. « Il y aurait de la gaucherie à montrer ici à Monsieur Leven la froideur sévère que je dois avoir, » se dit Madame de Chastelet pour se justifier à ses propres yeux. « Monsieur Leven ne peut avoir reçu mes lettres. D'ailleurs, je le vois peut-être pour la dernière fois. » Si mon indigne cœur continue à s'occuper de lui, je saurai bien quitter Nancy. » L'image présentée par ces 2 mots attendrit Madame de Chastelet malgré elle. C'était presque comme si elle se fût dit « Je quitterai le seul pays où il puisse exister pour moi un peu de bonheur. » Au moyen de ce raisonnement, Madame de Chastelet se pardonna d'être aimable et gaie sans conséquence, comme la bonne famille au milieu de laquelle elle était tombée. La gaieté gagna si bien tout le monde, et l'on se trouva si bien ensemble, que Mademoiselle Théo de l'Inde songea à la grande calèche de Monsieur Leven, de laquelle on se servait sans façon. Elle alla parler bas à sa mère. « Allons au chasseur vert !» dit-elle ensuite tout haut. Cette idée fut approuvée par acclamation. Madame de Chastelet était si triste chez elle qu'elle n'eut pas le courage de se refuser cette promenade. Elle prit dans sa voiture 2 des demoiselles de Serpillères, et tous ensemble on alla à un joli café établi à 1 lieue et demie de la ville, au milieu des premiers grands arbres de la forêt de Burelvillers. Ces sortes de cafés dans les bois
où l'on trouve ordinairement le soir de la musique exécutée par des instruments à vent, et la facilité avec laquelle on y va, sont un usage allemand qui, heureusement, commence à pénétrer dans plusieurs villes de l'est de la France. Dans les bois du Chasseur Vert, la gaieté douce et la bonhomie de la conversation furent extrêmes. Pour la première fois pendant un aussi long temps, Levaine osait parler devant Madame de Chastelet et à elle-même. Elle lui répondit, et à plusieurs reprises, elle ne put se défendre de sourire en le regardant, et ensuite de lui donner le bras. Il était parfaitement heureux. Madame de Chastelet voyait l'aînée des demoiselles de Serpierre sur le point, tout au moins, de devenir amoureuse de Levaine. Il y avait ce soir-là, au café haut du Chasseur Vert, des corps de bohème qui exécutaient d'une façon ravissante une musique douce, simple, un peu lente. Rien n'était plus tendre, plus occupant, plus d'accord avec le soleil qui se couchait derrière les grands arbres de la forêt. De temps à autre, il lançait quelques rayons qui perçaient au travers des profondeurs de la verdure et semblaient animer cette demi-obscurité si touchante des grands bois. C'était une de ces soirées enchanteresses que l'on peut compter au nombre des plus grands ennemis de l'impassibilité du cœur. Ce fut peut-être à cause de tout cela que Levaine, moins timide, sans pourtant être hardi, dit à Madame de Chastelet, comme entraînée par un mouvement involontaire. « Mais, madame, pouvez-vous douter de la sincérité et de la pureté du sentiment qui m'anime ? Je vaux bien peu, sans doute. Je ne suis rien dans le monde. Mais ne voyez-vous pas que je vous aime de toute mon âme ? Depuis le jour de mon arrivée, que mon cheval tomba sous vos fenêtres, je n'ai pu penser qu'à vous. Et bien malgré moi, car vous ne m'avez pas gâté par vos bontés. Je puis vous jurer, quoique cela soit bien enfant et peut-être ridicule à vos yeux, que les moments les plus doux de ma vie sont ceux que je passe sous vos fenêtres, quelquefois le soir. » Madame de Chastelet, qui lui donnait le bras, le laissait dire et s'appuyait presque sur lui. Elle le regardait avec des yeux attentifs, si ce n'est attendri. Levaine le lui reprocha presque. Quand nous serons de retour à Nancy, quand les vanités de la vie vous auront saisi de nouveau, vous ne verrez en moi qu'un petit sous-lieutenant. Vous serez sévère, et j'ose dire, méchante pour moi. Vous n'aurez pas beaucoup à faire pour me rendre malheureux. La seule peur de vous avoir déplu suffit pour m'ôter toute tranquillité. Ce mot fut dit avec une vérité et une simplicité si touchantes que Madame de Chastelet répondit aussitôt « Ne croyez pas à la lettre que vous recevrez de moi. » Cela fut dit rapidement. Levaine répondit de même « Grand Dieu, aurais-je pu vous déplaire ?»« Oui, votre grande lettre datée de mardi a l'air d'être écrite par un autre. C'est une âme sèche et à projet hostile contre moi. C'est presque un petit homme fat et vaniteux qui me parle. Vous voyez si j'ai des prétentions avec vous. Vous voyez bien que vous êtes la maîtresse de mon sort, et apparemment vous me rendez fort malheureux. Non, ou votre bonheur ne dépendra pas de moi. » Levaine s'arrêta involontairement. Il la regarda. Il vit ses yeux tendres et amis de la conversation au bal. Mais cette fois, il semblait voilé de tristesse. S'ils n'eussent pas été dans une clairière du bois, à 100 pas des demoiselles de Serpierre qui pouvaient les voir, Levaine l'eût embrassé, et en vérité, elle l'eût laissé faire. Tel est le danger de la sincérité, de la musique et des grands bois. Madame de Chastelet vit son imprudence dans les yeux de Levaine et eut peur. « Songez où nous sommes !» Et honteuse de ce mot et de ce qu'il semblait faire entendre, « N'ajoutez pas une syllabe, » dit-elle avec une résolution sévère, « ou vous allez me déplaire, et promenons-nous. » Levaine obéit, mais il la regardait, et elle voyait toute la peine qu'il avait à lui obéir et à garder le silence. Peu à peu, elle s'appuya sur son bras avec intimité. Des larmes de bonheur, apparemment, vinrent mouiller les yeux de Leven. « Eh bien, je vous crois sincère, mon ami, » lui dit-elle après un grand quart d'heure de silence. « Je suis bien heureux, mais à peine je ne serai plus avec vous que je tremblerai. Vous m'inspirez de la terreur. À peine rentré dans les salons de Nancy, vous redeviendrez pour moi cette divinité implacable et sévère. » J'avais peur de moi-même. Je tremblais que vous n'eussiez plus d'estime pour moi après la sotte question que j'avais osé vous adresser au bal. À ce moment, au détour d'un petit chemin dans le bois, ils ne se trouvèrent plus qu'à 20 pas de deux des demoiselles de Serpierre qui se promenaient en se donnant le bras. Leven craignit de voir tout finir pour lui, comme après le regard du bal. Il fut illuminé par le danger et dit fort vite « Permettez-moi de vous voir, demain, chez vous. »« Grand Dieu » répondit-on avec terreur. « De grâce !»« Eh bien, je vous recevrai demain. » Après avoir prononcé ces mots, Madame de Chastelet était plus morte que vive. Les demoiselles de Serpierre la trouvèrent pâle, respirant à peine, et remarquèrent que ses yeux étaient éteints. Madame de Chastelet leur demanda leurs bras à toutes les deux. « Croiriez-vous, mes amis, que la fraîcheur du soir me fait mal? Si vous voulez, nous irons aux voitures. » C'est ce qu'on fit. Madame de Chastelet prit dans la sienne les plus jeunes des demoiselles de Serpierre, et la nuit qui tombait tout à fait lui permit de ne plus craindre les regards. Dans sa vie de savant et d'étourdi, jamais Leven n'avait rencontré de sensation qui approcha le moins du monde de celle qui l'agitait. C'est pour ces rares moments qu'il vaut la peine de vivre. « Vous êtes stupide, vraiment !» lui dit en voiture Mademoiselle Théo de l'Inde. « Mais songez, ma fille, que vous êtes peu polie !» dit Madame de Serpierre. « Mais c'est qu'il est insupportable ce soir !» répliqua la bonne provinciale. Et c'est à cause de cette naïveté, encore possible en province, que l'on peut quelquefois l'aimer. Il y a des mouvements de naturel et de vérité entre jeunes gens sans conséquence, ni petite mine à la Sophie après se les être permis. À peine Madame de Chastelet fut-elle rendue à la solitude et au raisonnement, qu'elle eut des remords effroyables de la visite qu'elle venait de permettre à Leven. Elle eut recours à un personnage que le lecteur connaît déjà. Il a peut-être gardé quelques souvenirs méprisants d'un de ces êtres fréquents en province, où ils sont respectés, et qui se cachent à Paris, où le ridicule les poursuit, d'une mademoiselle Bérard, bourgeoise que nous avons rencontrée, fourrée parmi les grandes dames, dans la chapelle des pénitents, la première fois que Leven eut l'esprit d'y aller. C'était une fort petite personne sèche, de 45 à 50 ans, au nez pointu, au regard faux, et toujours mise avec beaucoup de soin, usage qu'elle avait rapporté d'Angleterre, où elle avait été 20 ans dame de compagnie de Milady Beaton, riche pairesse catholique. Mademoiselle Bérard semblait née pour cet état abominable que les Anglais, grands peintres pour tout ce qui est désagréable, désigne par le nom de Todd Eater, avaleur de crapauds. Les mortifications sans nombre qu'une pauvre dame de compagnie doit supporter sans maudire d'une femme riche et de mauvaise humeur contre le monde qu'elle ennuie, ont donné naissance à ce bel emploi. Mademoiselle Bérard, naturellement méchante, atrabilaire et bavarde, trop peu riche pour être dévote en titre avec quelque considération, avait besoin d'une maison opulente pour lui fournir des faits à envenimer, des rapports à faire, et de l'importance dans le monde des sacristies. Il y avait une chose que tous les trésors de la terre et les ordres même de notre Saint-Père le Pape n'auraient pu obtenir de la bonne Mademoiselle Bérard.
C'était une heure de discrétion sur un fait désavantageux à quelqu'un et qui serait venu à sa connaissance. Ce manque absolu de discrétion fut ce qui décida Madame de Chastelet. Elle fit annoncer à Mademoiselle Bérard qu'elle accepterait ses soins comme dame de compagnie. « Cet être si méchant me répondra de moi-même, » pensa Madame de Chastelet. Et la sévérité de cette punition tranquillisa sa conscience. Madame de Chastelet se pardonna presque l'entrevue si légèrement accordée à Leven. La réputation de Mademoiselle Bérard était si bien établie que le docteur Dupoirier lui-même, qui fut l'intermédiaire dont Madame de Chastelet se servit, ne put retenir une exclamation. « Mais, madame, voyez quel serpent vous introduisez chez vous !» Mademoiselle Bérard arriva. L'extrême curiosité, plus que le plaisir de sa promotion, rendait hagard son regard oblique, qui d'ordinaire n'était que faux et méchant. Elle arrivait avec une liste de conditions pécuniaires et autres. Après y avoir donné son assentiment, Madame de Chastelet ajouta « Je vous engagerai à vous établir dans ce salon où je reçois les visites. » « J'aurai l'honneur de faire observer à madame que chez Lady Bittown, ma place était assignée dans le second rang, correspondant au salon occupé par les dames pour accompagner chez les princesses, ce qui est peut-être plus dans les convenances, ma naissance. »« Eh bien, soit, mademoiselle, dans le second salon. » Madame de Chastelet s'enfuit et courut s'enfermer dans sa chambre. Le regard de Mademoiselle Bérard lui faisait mal. « Mon imprudence d'hier est en partie réparée, » pensa-t-elle. Tant qu'elle n'avait pas eu chez elle Mademoiselle Bérard, Madame de Chastelet avait frémi au moindre bruit. Il lui semblait entendre un laquais venant annoncer Monsieur Leven.